Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang.
Pierre Dorian.
Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC, à télécharger tous les mardis sur rmc.fr. Avec aujourd'hui une grande équipe, hein, Fred Weiss, Alex Biggerstaff et Nicolas Bayou, ce qui veut dire qu'on a viré les trois de la semaine dernière.
Ah, ça fait du bien. Vache, le trade.
C'est un énorme trade, ouais. C'est un comment on appelle ça,
un blockbuster.
Exactement. Alors, le problème, c'est qu'on les a envoyés, mais on ne sait pas où exactement. Il n'y a pas grand monde pour nous les prendre, si c'était Stephen qui est en vacances à Los Angeles.
Ah, ça va, triste vie.
Alors, nous allons parler d'une grande équipe aujourd'hui dans Basket Time, probablement la franchise la plus mythique de la NBA. Ah,
calme-toi.
Les Boston comme ça. Celtics.
Redescends un petit peu.
On va parler... peut la refaire ?
Non, je suis embêté, Nico, parce qu'on va parler des Boston Celtics avec deux fans des Lakers.
On va équilibrer le débat parce que 17 titres pour les Celtics, 17 titres pour les Lakers.
T'es trop terre à terre, Nico, c'est ça ton problème.
Les chiffres sont toujours
moi, j'ai envie de rêver.
Alors, c'est une très grande franchise, je disais probablement la plus mythique, c'est la plus ancienne qui n'a jamais changé ni de nom ni de localisation et qui a à peu près zéro fan en France. Non, je charrie, il y a des fans des Celtics, mais c'est vrai que bon, je vais avoir du mal à les défendre face aux deux fans des Lakers complètement débiles, hein. Je vous le dis tout de suite avant l'émission.
Les fans sont débiles ou qui?
Non, vous deux.
Ah oui.
À propos des Celtics, ouais. Oh,
ça attaque fort. Hein.
Totalement. Non, mais parce que
en vrai, t'es en mode défense. Là. T'as l'ADN de Boston.
Exactement.
En toi, en fait,
c'est
hein.
Exactement. Wow. Non, parce que je m'attendais pas à ça, Nico.
Mais après, on les respecte. Hein.
Ah, très bien.
Quand même du respect. Ah,
cette franchise de susceptibles là.
C'est en dessous des Lakers, bien sûr.
C'est vrai qu'en ce moment, les Lakers font rêver et Boston pas du tout.
Oh là là, c'est terminé. Ça y est, c'est fini.
Alors au programme, donc les Celtics champion grâce à leur défense, est-ce possible? C'est la meilleure défense, en tout cas le meilleur ratio défensif de la NBA. Et puis on va parler de la nouvelle génération autour donc de Jason Tatum avec Doncic, Morant et Booker. Qui sera MVP, le premier parmi ces jeunes talents brillants mais qui pour l'instant sont devancés à la fois par Giannis Antetokounmpo mais aussi par les anciens, hein, Kevin Durant et compagnie. Et puis comme les Boston Celtics ont eu dans leur histoire des Big Three monumentaux, je vais vous demander quel est votre Big Three préféré dans l'histoire de la NBA. Qu'est-ce qui te fait sourire, Nico?
Ah, j'étais marché sur les plates-bandes de Fred, c'est pour ça qu'il rigole, et on verra ça tout à l'heure.
Et puis bien sûr, le quiz, forcément, aura un rapport avec les Boston Celtics. Donc là, t'as peut-être un avantage, Nico.
Dur,
je me rends pas compte, c'est pas si facile.
Mais t'as trouvé 5-6 questions sur les Boston Celtics. C'est bien déjà.
Il est bon, ce Fred, il est bon. C'est pas si facile, mais je pense que vous allez vraiment vous en sortir sans problème. Allez, Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. La défense des Celtics pour commencer.
Finds Tatum for three. Oh, that's huge. Smart. Kicks it. Horford sticks it. That's a great extra pass. Tatum. There's O'Neal on the baseline. Smart for three. Nine in the shot clock. Oh, wow. Smart running the floor. Can't get two, the tip goes. Tatum. Toe. Too good. Big defense on the other end as Smart comes away with it. Skip pass underneath. Tyson.
Oh, this break is unbelievable.
Alors les Celtics restaient sur une série de 6 victoires d'affilée avant leur défaite face à Toronto la nuit dernière, mais c'était sans 4 de leurs 5 titulaires, donc Brown, Tatum, Horford et Williams, on va en reparler d'ailleurs. La série en cours reste quand même monumentale, 11 victoires sur les 13 derniers matchs, et donc ils sont à la lutte pour la première place à l'Est avec les favoris. C'est ça qui est peut-être le plus significatif, c'est-à-dire qu'ils luttent avec Milwaukee, Philadelphie et Miami. Et ils peuvent terminer premier, pourquoi pas, hein, à la faveur de, d'une fin de saison en boulet de canon. Équipe un peu atypique, on peut le dire, Nico. Les Celtics peuvent-ils être champions grâce à leur défense? Est-ce que c'est... Oui, on le sait, en play-off, c'est très important, la défense.
Bah, tous les voyants sont verts.
Sont verts, bien joué, ça.
Non, au niveau des chiffres, vous l'avez vu comme moi, son premier au ratio défensif, présent dans beaucoup de statistiques défensives, c'est la meilleure défense de NBA. Oui, peuvent être champions, mais malheureusement il y a eu du nouveau depuis quelques heures, hein, la blessure de Rob Williams, l'intérieur, qui est
perdu leur pivot,
exactement, qui est un point d'ancrage essentiel dans la défense, aussi bien dans les shifts que dans l'énergie.
Alors c'est pas le mec qui va mettre le plus de points,
il est quasiment
à l'intérieur,
il est en double-double, on va dire, de moyenne, il a un peu
et
plus
puis surtout
de contre.
En contre, en interception,
mais c'est surtout qu'il est, il est important parce qu'il parle beaucoup derrière, c'est-à-dire qu'il aide beaucoup les joueurs devant à mettre la pression. En fait, quand t'as un pivot qui est aboyeur derrière, ça te permet de mettre plus de pression sur le ballon et ça te permet d'avoir une meilleure défense, simplement, quoi.
C'est le deuxième rideau. Le premier, c'est Marcus Smart, qui est vraiment la pointe de la défense comme meneur, qui est l'âme un peu défensive. Mais voilà, défensivement, on verra maintenant dans les semaines à venir. On sait pas quel sera le traitement de Rob Williams, l'intérieur.
Alors le problème, c'est que c'est quand même une blessure importante. C'est le ménisque qui est déchiré, ménisque du genou gauche. Donc on évalue déjà à plusieurs semaines, peut-être.
Au moins 2 mois.
Peut-être pas de play-off du tout, en fait.
Non, mais c'est surtout que c'est compliqué parce qu'il a signé un contrat longue durée. Donc, du côté de Boston, on va faire attention à lui et on va pas prendre de risques.
Voilà.
Et c'est ça la problématique, en fait, quelque part.
Il est jeune encore.
Il est jeune, on va pas prendre de risques. Et tu te dis que il va pas.
Alors, peut-être du coup, est-ce que le premier débat est déjà terminé? Est-ce que sans Robert Williams,
pas pour moi, parce
ça devient compliqué.
C'est un pion essentiel, mais ils peuvent compenser. Il y a quand même Horford qui connaît une résurrection, qui est de retour au Celtics. T'as les deux Jays, Tatum et Jaylen Brown qui peuvent compenser. Donc voilà, ça peut être fatal pour le titre, mais pas pour un beau parcours de playoff.
Mais pour le titre,
oui, pour le titre, tu clairement, quand t'auras, mais en finale de conférence, Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo, si t'as pas Rob Williams, le banc derrière est pas extraordinaire, donc ça manque de profondeur, ça manque de d'énergie en défense.
Alex?
Je suis très sceptique là. Depuis 48 heures, autant je voyais une belle vague verte depuis les derniers mois. Si on veut parler d'une équipe cette saison qui a vraiment tourné son championnat de manière absolument dingue, on le rappelle, Boston était 11e au mois de décembre. Ils ont monté toute la conférence, ils ont trouvé une vraie identité. Il y a ce pitbull qui est Marcus Smart. Depuis son retour de blessure mi-janvier, c'est là où ils ont enchaîné cette série incroyable, 24 victoires sur les 29 derniers matchs. Et le problème, c'est que dans chaque dispositif comme ça où on trouve une identité, il y a des joueurs clés. Et dans ces joueurs clés, Robert Williams est
en fait
un
partie.
Joueur clé. Ouais. Alors Ford et Daniel Tice, pour moi, c'est trop léger sur une campagne de play-off, sachant qu'à l'Est, je crois que ça n'a jamais été aussi fort que les dernières saisons. À l'Est, c'est un bocal à requins, là, tout simplement, avec Philly, avec Brooklyn qui est 8, mais qui peut être bien caché. C'est difficile.
Dit dans
pour
un bocal,
Boston.
Tu en fais pas rentrer beaucoup des requins. Hein.
Des petits requins,
une piscine,
des petits piranhas, tu vois ce que je veux dire.
C'est vrai que Boston peut se fader un premier tour contre Chicago déjà.
Ils sont sortis dans l'indifférence totale la saison dernière, 4-1 par Brooklyn. Donc qu'est-ce qui prouve qu'ils vont pas se faire sortir cette saison par un Miami, par un Chicago qui est un petit peu plus reculé maintenant? C'est
peut-être
difficile.
La chance qu'ils ont, c'est que pour l'instant, mais bon, ça va bouger, hein. Ils peuvent tomber dans la moitié de tableau sans Milwaukee ni Philadelphie. Et donc que les deux se déchire en demi-finale de conférence.
Après, tu as un problème de niveau, encore une fois, à l'Est. C'est du 50-50 quand tu pars dans une série cette saison à l'Est. Le problème, Boston, c'est pas une équipe dominante, Pierrot. C'est une équipe solide de par sa capacité à défendre. Parce qu'on rappelle, encore une fois, c'est moins de 100 points encaissés par 100 possessions. C'est énorme comme ratio. Ils sont devant tout le monde dans la NBA à ce niveau-là. Le problème, c'est que cette équipe-là, elle est sur courant alternatif en attaque. C'est-à-dire qu'elle peut défendre contre qui elle veut chaque soir. En revanche, aussi bien attaquer dans des matchs de play-off quand t'as des Kevin Durant en face qui peuvent être en feu, ça devient compliqué. Et si t'as pas un Jason Tatum ou un Jaylen Brown vraiment au sommet de leur art, bah Boston passe à la trappe.
Fred, t'y crois ou pas plus que les deux autres?
Honnêtement, c'est difficile d'y croire. C'est vraiment
c'est
très difficile.
C'est difficile d'y croire, carrément.
Pour moi, en tout cas, c'est difficile d'y croire parce qu'encore une fois, Robert Williams, il était là et c'était important parce qu'en face, effectivement, ils peuvent se fader. Embiid, Giannis et Adebayo. Concrètement, qui va les arrêter? Horford et Tice, je suis pas vraiment certain qu'ils soient capables de le faire. Donc à partir de là, les autres bourrins, là, ils vont massacrer à l'intérieur et qui va les arrêter? C'est pas possible. Encore une fois, ils avaient une bonne défense grâce notamment à Robert Williams, mais pas que évidemment. Mais l'avantage qu'il avait, c'est surtout qu'il pouvait défendre l'homme aussi. Et comment tu défends après, l'homme
est-ce que vraiment tu défends même Robert Williams sur Giannis Antetokounmpo?
Non,
pas
mais
vraiment.
Tu peux un petit peu le freiner, tu peux faire des choses, tu peux trouver des ajustements, peut-être lui qui vient en prise à deux pour aider. Sauf que quand il est pas là, bah t'as un très bon contreur, un fort défenseur qui n'est plus là, quoi.
Ils sont capables de switcher vraiment sur tous les postes. C'est ça qui faisait aussi leur force, hein. Parce que quand tu vois un Jaylen Brown, il est capable de prendre un mec de 2m8 facilement. Il le tient en 1 contre 1, est très très bon en 1 contre 1, Jaylen Brown. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a plus le dernier rideau, le dernier rempart qui, comme on en a parlé plus tôt dans la saison, Evan Mobley, voilà, qui te ratisse tout, qui en plus, avant même d'agir, influence les choix des attaquants adverses, hein. Comme le fait Marcus Smart quand il est en défense 1 contre 1, il n'y a pas un porteur de ballon dans ce pays qui hésite plus que quand il est face à Marcus Smart de partir de quel côté, quelle main.
Et sur les pénétrations, Robert Williams, ben, quand tu pénètres, effectivement, ben, les mecs se disent, si je vais au bout, je risque d'en prendre une, donc tu vas pas au bout, donc tu changes ton jeu, ou tu changes la trajectoire de ton shoot.
Là, t'as
ça change
Tate
absolument
tout.
Evan Mobley qui s'est blessé aussi d'ailleurs, hein, la cheville, je crois, qui est absent pour un petit moment. Cela dit, si on se projette un peu plus loin que cette saison, est-ce que c'est une franchise qui a de l'avenir dans cette identité-là, très défensive? Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Et est-ce que ça peut être une nouvelle tendance, un peu à l'image de Cleveland, c'est-à-dire à jouer plus grand et dur en défense?
Moi, tu sais que je regrette presque de pas adorer cette franchise, parce qu'ils ont absolument tout ce que j'aime.
C'est beau.
Ils défendent collectivement. Collectivement, le ballon circule bien. On parle même d'altruisme du côté des Celtics. Et malgré ça, j'arrive pas à accrocher. Je sais pas pourquoi.
C'est parce que t'es un Lakers.
Non, mais évidemment, mais encore une fois, je pleure pas quand les Lakers perdent, heureusement, parce que j'aurais plus de larmes dans mon corps. Mais, mais concrètement, je pense qu'ils ont tout. Ils ont cette possibilité de jouer tall ball. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que comme tu disais, c'est une nouveauté un petit peu dans la NBA, avec Cleveland qui le faisait. Eux, ils sont capables de le faire aussi. Ça joue grand, mais malgré ça, ça peut faire des switches défensifs.
Est-ce qu'il ne faut pas ajouter un talent offensif de plus?
Moi, je ne pense pas, parce qu'ils ont maintenant Jason Tatum, qui est monté dans la hiérarchie, qui est maintenant le leader, qui fait une deuxième partie de saison. Donc,
Tatum Brand, ça suffit?
Oui, ils sont jeunes encore, hein, 24 ans. Et ils ont Rob Williams, dont on a parlé. Alors, Ford est un petit peu vieillissant. Derrière, ça manque un petit peu de profondeur, ça manque de taille. Mais laissons-les progresser dans l'avenir. C'est une franchise qui peut être très, très intéressante tous les ans, avec comme le leader star qui est maintenant venu peut-être
mais qui est devenu surtout un vrai leader, parce qu'avant c'était un leader parce qu'il était capable de faire des stats, tout le monde le savait.
Il se marchait sur les pieds avec Jaylen Brown.
Exactement, sauf que maintenant la hiérarchie est très bien établie d'une part, et en plus Jason Tatum, il est capable de partager le ballon. C'est-à-dire que quand il voit un de ses coéquipiers démarquer, avant franchement concrètement il avait envie de la shooter. Maintenant il voit un coéquipier démarquer, il est capable de lui faire la passe. Mais par contre il est quand même capable de prendre le match à son compte.
Alors c'est un spécial Boston Celtics, et justement on va parler plus précisément de Jason Tatum, le franchise player. Mark throws it inside, looking and finds Tatum. Tatum squeezes up and gets two. Off. Finish for Tatum. Towns with 47. You can't do anything about that. Booker steps in, picks his pocket, racing to the rack. Tatum for three.
Down the lane, Luka stops Page, scores. It's his first two-pointer of the game. A lot of contact on the drive. Morant blows by Primo. Attack!
Alors Jason Tatum, mais pas que Jason Tatum, débat très intéressant, la nouvelle génération, les nouveaux talents de cette NBA, qui selon vous sera MVP en premier? Alors il y a juste un petit souci, c'est sur les âges, parce qu'en fait Giannis Antetokounmpo a 27 ans, donc on peut considérer que c'est pas tout à fait la même génération que Ja Morant, mais Karl Anthony Towns en a déjà 26. Devin Booker en a 25 et Jason Tatum 24, donc on va peut-être choisir de qui on parle avant de démarrer. Jason Tatum évidemment, Luka Doncic évidemment, Ja Morant évidemment, on y ajoute Devin Booker. Est-ce qu'on parle aussi de Karl Anthony Towns, messieurs? Oui, tu dis oui, Alex?
Oui, parce que c'est pour moi l'intérieur avec Joel Embiid qui a le plus grand arsenal offensif.
Mais il le montre, et on se moque toujours de Stephen quand il dit qu'il est plus fort que Anthony Davis. Eh ben, je suis désolé, mais sur cette saison, il montre des choses qui prouvent qu'il est meilleur.
Au moins, il joue.
Oui, il joue. Déjà, il joue. Alors ça, c'est une certitude, mais il est très bon, surtout.
Est-ce qu'on ajoute Trae Young à cette liste?
Oui. On peut. Bien sûr.
C'est du même niveau.
Il peut, c'est très solide. Il peut candidater.
Alors, par contre, je vais vous demander, bien sûr, on va beaucoup parler de Tatum, mais je vais vous demander quand même de faire un pronostic. Qui sera MVP en premier dans cette liste? C'est compliqué parce que t'as quand même une ligue avec Giannis. Il y a Joel Embiid. Il y a Jokic. Il y a éventuellement les anciens, je sais pas s'ils ont encore une chance, mais Kevin Durant sur une saison pleine, pourquoi pas. Donc il y a pas beaucoup à manger hein, pour cela. Il y a peut-être un moment quand même où ils vont prendre la main. Qui commence, Fred ?
Moi, je peux commencer.
Alors, parlez-nous d'abord un peu de Tatum. Tatum, c'est quel genre de joueur et pourquoi est-ce que c'est un MVP potentiel ? Est-il un MVP potentiel ?
Bien sûr, sur les stats, oui, sur son leadership, sur beaucoup de choses, c'est un leader naturel et c'est un MVP naturel. Moi, je trouve que c'est un joueur en plus élégant. J'adore ce joueur. Il est beau à voir jouer. Il est aérien.
Alors que Jamoran, c'est pas du tout. Hein.
Non, il a quelque chose en plus. Non, mais il a ce
il
petit
classe,
truc.
Hein.
Il est très très classe. Il est beau à voir jouer.
Il est beau gosse. Il est classe.
Il est polyvalent. Il a une bonne gueule, etc.
C'est pour ça qu'on n'a pas été MVP nous, c'est ça.
Peut-être. Il y a eu une raison en tout cas.
Il vient d'être élu joueur de la semaine pour la deuxième fois consécutive. C'est la première fois dans l'histoire des Celtics. Donc c'est quelque chose. Et puis bon, voilà, il bat tous les records de matchs à plus de 20 points consécutivement, 24 ans, on l'a dit. Donc oui, il a le potentiel pour être MVP. Oui.
D'accord, on le met dans la catégorie des MVP potentiels sans problème. Qu'est-ce qui te plaît chez lui, Alex ?
J'adore, comme l'a dit Nico, c'est un garçon très élancé, il a des grands segments, il est fluide dans tous ses gestes. Tu sens qu'il est naturel, qu'il force jamais quelque chose, et ça, il a une facilité déconcertante, et il l'a depuis toujours. Jason Tatum fait partie de ces jeunes lycéens qui étaient suivis depuis très longtemps et qu'on a annoncé déjà tout en haut des étoiles. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu avec Jason Tatum, c'est que je ne crois pas qu'il ait le profil nécessaire ou adéquat
pas
à l'heure
d'égo.
Actuelle pour être MVP. Ouais,
peut-être pas assez d'égo. Ce qui est une qualité et un défaut en même temps.
Quand je regarde les ailiers dans son registre ces dernières saisons qui ont gagné ce trophée de MVP, Pierrot, c'est des garçons qui ont des formats très très uniques. LeBron James, Kevin Durant, ce sont des garçons soit le meilleur scoreur presque de tous les temps dans sa facilité, Kevin Durant, soit un LeBron James qui lui est tout terrain, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Et à ce petit jeu-là, Jason Tatum n'a pas encore ce coffre, à mon avis. Il est encore jeune, il a le temps de se développer. Je ne dis pas qu'il sera jamais MVP en NBA, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il a moins de cartes en main.
C'est sûr que Doncic correspond plus au profil.
Et voilà, Luka Doncic, ouais, pour moi, est le favori de cette liste à l'heure actuelle. Ja Morant est vraiment pas loin derrière, mais ce sont des garçons éblouissants dans tous les domaines. C'est-à-dire que dans les catégories statistiques, ils ont tout ce qu'il faut pour être là. Ils sont leaders dans leur équipe respective. Ils ont l'image de marque qui, mine de rien, est important lorsqu'on est MVP. Ils ont cette image de marque. Ils sont internationaux, ces garçons-là. Morant et Doncic, je sais pas qui dans le monde maintenant, fan de basket, ouais, ne connaît pas ces noms-là. Donc, par rapport à justement ces garçons-là, Jason Tatum a peut-être un train de retard parce que c'est le leader discret. C'est discret à l'échelon national, mais leader, bien sûr, incontesté à Boston. Tous les fans des Celtics sont derrière lui, mais il lui manque cette carte internationale, je trouve.
Fred ?
Alors, je pense pas du tout la même chose. Je pense exactement le contraire.
Et c'est fou, parce qu'en fait, toi...
J'aurais dû parler moins longtemps.
Toi, t'es un... Comment dire ? T'es un fan des Celtics refoulé, je comprends pas ce que tu dis.
Non, mais c'est pas ça.
Il aime se faire du mal.
Non, en fait.
Même du vert sur ton maillot, là. Fais attention.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, justement, ce que vient de dire Alex, c'est tout ce qui fait un bon MVP. C'est-à-dire que.
Attends.
Il est.
On parle des critères
plutôt...
ou de ce qui fait un bon MVP dans ta tête?
Pour moi, un bon MVP. Oui, non. Par rapport à moi, évidemment.
Mais regarde le classement des dernières années, des 15 dernières années, Fred.
Par rapport à moi. Donc, on dit que cette franchise de Boston est capable de progresser, de continuer à faire des résultats. Ce qui est très important pour être MVP. Ensuite, ses stats, c'est 27 points, 8 rebonds, 4 passes. Donc, il est loin d'être ridicule par rapport aux autres. Et il a un gros avantage que les autres n'ont pas. C'est un two-way player. C'est-à-dire que le mec, il joue en attaque. Il devient collectif, il devient vraiment leader, presque playmaker à son poste, mais en plus, il défend. Mmh. Et un joueur qui défend, qui attaque, et qui permet à son équipe d'être dans le top 2-3 de sa conférence, et ben pour moi, c'est un...
Pour toi, il a le profil.
Pour moi, il a le profil. Pour et moi, ça devrait être le premier.
À ce niveau-là, pourquoi Devin Booker n'est pas devant Jason Tatum ? Les résultats sont bien meilleurs. Phoenix est la meilleure franchise de la NBA à l'heure actuelle. Il est leader dans une équipe où il y a aussi d'autres grands talents comme Chris Paul, comme Jalen Brown, comme Tatum.
Parce qu'il
défend moins.
Encore une fois, t'as vu
où Devin Booker a porté Phoenix, qui était dans le désert.
Encore une fois.
Je peux pas comprendre comment tu mets Tatum devant Booker. Tu me parles des mêmes aspects.
Non. Comment tu peux considérer que c'est facile de trouver un potentiel MVP dans ça ? C'est impossible, parce que c'est tous des joueurs extraordinaires. Sauf que pour moi, encore une fois, c'est selon mes critères. Je pense que c'est plus important d'être un two-way player qu'être uniquement un joueur offensif.
D'accord.
Je pense que c'est plus important pour une équipe. Et finalement, celui qui apporte le plus, c'est celui qui apporte des deux côtés.
En fait, pour vous mettre d'accord,
Nico,
que,
celui, Nico c'est le juge.
Celui qui sera potentiellement le MVP, bah, ça sera celui qui va gagner en premier, tout simplement, dans cette génération de joueurs. Bah, bien sûr.
Giannis a été MVP avant d'être champion.
D'avance, il a, tu l'as dit, il est plus âgé.
Oui, mais avant, je veux dire avant d'être champion.
Oui. Oui.
Oui, mais en même temps, MVP, c'est la saison régulière. Donc, quand ils gagneront, ça sera l'année suivante qu'ils peuvent être MVP. Pas cette année-là. Logiquement,
en tout
ça
cas, gagner, tu peux dire, faut faire gagner, c'est aussi peut-être être premier de la conférence.
C'est dans les années à venir qu'on est en train de voir. Donc, il faut gagner quelque chose. Pour moi, après, je rejoins Alex. Luka Doncic a une longueur d'avance dans la maturité. Au même âge, il est plus fort. Il est plus fort que tous.
Il a gagné
des choses. Il a pas gagné en NBA, mais il a été champion d'Europe avec le Real Madrid, champion d'Europe avec la Slovénie.
Bon, mais ça, je crois que ça compte pas dans les deux MVP. Hein. Parce que c'est ça en Euroleague, je connais rien, mais.
Non, mais regarde le classement des dernières années, Fred, aussi. T'as besoin d'avoir un mec qui porte une valeur ajoutée à un effectif des fois un peu plus faible. Tu regardes Doncic, il sort du lot à Dallas. Tu regardes Tatum, il y a du beau monde autour
évidemment,
de lui.
Mais est-ce que tu te rends pas compte que Jason Tatum, de plus en plus, dans les matchs où il est confronté à
regarde même les meneurs,
Pierrot,
ces dernières saisons, t'as Westbrook, t'as Nash, t'as. Qui joue bien en meneur
Qui joue bien en meneur, t'as dit Westbrook en premier.
Mais non, parmi les MVP, ces dernières saisons, regarde le. T'as même pas regardé le classement des MVP des dernières. Oui, les meneurs sont souvent récompensés.
Westbrook, Curry.
Les arrières comme Tatum sont rarement récompensés.
Mais c'est bien dommage.
Et c'est pourtant des arrières two-way.
Il y a James Harden. Voilà.
T'as très bien.
Harden, on peut le considérer comme meneur sur sa saison MVP. Nash, Curry. Bah, Curry, non, évidemment, Curry.
En tout cas,
regarde le classement.
Il y a beaucoup de jeunes talents. C'est pas facile de se projeter comme ça, mais on sent quand même une nouvelle génération arriver. Et parmi ces noms dont on parle, il y aura forcément un MVP potentiel avec le titre ou pas à la clé. Et la saison régulière.
Ouais, le seul bémol pour Doncic, je te rejoins quand même, Nico, c'est que pour l'instant, enfin, on commence à être un peu sur notre fin sur les performances, non pas de Doncic, mais des
Mavericks. Collective.
Alors là, cette année, ils sont pas mal.
Sur quatrième, quand même, ouais.
On va voir ce que ça donne. Je pense pas qu'il l'ait cette année, on est d'accord.
En fait, il doit te battre contre nous, pas contre lui, c'est le présentateur, calme-toi.
Non, mais moi, ça me paraît évident que dans cette liste, Doncic est grand favori pour être MVP le premier.
Et Morant, il est deuxième avec Memphis que personne attendait, si tu vas
Ja Morant, c'est impressionnant aussi, hein.
Voilà, et Ja Morant peut peut-être tous les coiffer, c'est vrai. Trae Young, j'aime beaucoup le mec.
C'est bon pour la NBA et tout ça, Pierrot.
Ah bah là, franchement, il y a une génération incroyable. Mais Trae Young, j'aime beaucoup parce que le mec sait ouvrir sa gueule de manière opportune, pas à tort et à travers. Moi, je trouve que le feuilleton qu'ils écrivent avec New York, il le maîtrise sur le bout des doigts. Et il faut voir, après, c'est pareil aussi, ça dépendra de leur vie en play-off.
Non, mais je suis d'accord avec toi, ça c'est important par contre, aussi l'image que tu dégages. Et là, c'est là que le seul moment où je vais rejoindre Alex, c'est que effectivement, l'image dégagée par Tatum, elle est un peu discrète.
Et donc, pour faire le tour, le prochain MVP dans cette liste, le premier MVP, Doncic, Alex.
Doncic, mais j'ai tellement envie de dire Ja Morant.
Et toi, Fred?
Morant.
Ah, très bien. Basket Time tous les mardis en podcast.
T'es honteux, Fred.
Nous allons passer à la partie historique de Basket Time. And here's Jordan, left open for the three, and he's got it. Michael Jordan, 7 on the shot clock, and Dennis Rodman off the glass. Pippen with a great feed to Rodman, Douglas fouls him. Ginobili hits the three-pointer. Udonis Haslam in the game, Duncan trying to take advantage, and does. Parker finally scores. Magic down the middle, Magic in deep, throws it up and scores it. Magic bounced the ball in low to James, out to Magic, back into Worthy, turn, shoots over half from 15 and the Lakers lead it 10-9. Shot up, beautiful 16-footer at the baseline. Alors, c'est un Basket Time spécial Boston Celtics. Et on va parler Big Three parce que les Big Three font et feront l'histoire de la NBA. Et les Celtics sont pas en reste avec deux Big Three à deux époques différentes qui ont marqué les esprits. Alors, l'un sur la durée et l'autre sur une courte période mais très efficace. Évidemment, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish dans les années 80. Puis, Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen dans la fin des années 2000 qui finalement est un des rares Big Three fabriqués entre guillemets dans l'urgence qui ait fonctionné.
Qui a duré. Ouais, qui a duré en plus.
Qui a marqué les esprits très rapidement. Mmh. C'est ça un peu leur marque de fabrique. Après des Big Three, il y en a plein dans l'histoire de la NBA. Donc chacun d'entre vous va parler avec son cœur et on va démarrer avec Fred Weiss. Qui est ton Big Three préféré dans l'histoire de la NBA?
Ben alors, je sais même pas comment on peut avoir un débat là. Ça me fait plaisir de commencer parce que je me demande comment mes acolytes vont pouvoir trouver une solution.
C'est simple, tu as choisi l'équipe en premier avant tout le monde.
Et voilà, peut-être. Voilà, c'est ça aussi d'être réactif quand on me propose tout de suite.
T'as levé le doigt et t'as dit.
J'ai levé le doigt en premier. Chicago Bulls.
Quel escroc.
Évidemment. Comment ne pas reconnaître que c'est le meilleur des Big Three?
il y a Michael Jordan. Jordan. Alors, à part vendre des chaussures, le mec est quand même un vrai basketteur.
Fred est fan des Lakers, des Celtics et des Bulls aussi. Non, c'est
vraiment une girouette. Il y a un vrai souci avec les Lakers.
De quoi?
C'est un vrai souci avec les Lakers. C'est
pourquoi?
Un fan des Celtics né dans le corps d'un fan
non,
des Lakers.
Non, je l'ai déjà dit, dans mes toilettes, il y a le poster de la victoire en 2020 des Lakers.
Donc, allez,
non.
Parle-nous de Jordan.
Donc,
Pippen
Jordan, il y a pas grand chose à dire. Scottie Pippen, le meilleur second, le meilleur lieutenant de l'histoire du basket.
Oh, il fait la tête,
Alex. Oui, mais Alex est jamais d'accord avec moi, mais c'est pas important.
Non, mais
et ensuite, on intègre à ce Big Three.
Qui est le troisième?
Dennis Rodman. Dennis Rodman, pourquoi? Alors, effectivement, hein, on peut presque parler d'un Big Four, parce qu'il y a Tony Kukoc qui est derrière, qui fait quand même des saisons assez...
Kukoc.
qui fait quand même des saisons incroyables. On se rappelle qu'il y avait aussi Steve Kerr et Luc Longley dans cette équipe, entre autres. Mais Rodman, c'est quand même le coup de génie et surtout la capacité à Phil Jackson de gérer un ego incroyable. Un mec qui peut partir pendant les playoffs, qui peut partir pendant la saison régulière, aller faire une virée folle avec Carmen Electra à Las Vegas, et pourtant revenir et jouer.
C'est ça qui est impressionnant.
Mais moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et le mec tourne à 5 fois.
Elle n'est pas dans tes toilettes, Carmen Electra, non plus.
De quoi? Oui, elle est dans oui, mais avant.
Sur la complémentarité aussi, c'est vrai qu'on a trois joueurs.
On a trois joueurs complètement différents, parce que regarde, Jordan capable de marquer, de défendre, etc. Scottie Pippen, le second parfait encore une fois. Et Dennis Rodman qui est capable de marquer peu, 5 points de moyenne en gros sur les 3 saisons à Chicago, mais 7 fois de suite meilleur rebondeur de la ligue. Donc ce joueur capable de défendre sur les big men d'en face, ce joueur capable de se jeter dans les tribunes pour récupérer des ballons, le joueur qu'il fallait à cette équipe pour être champion 3 fois.
Combien ?
The Last Dance.
3 fois, hein. 3 titres. Hein. Okay. Par contre, je retiens.
Par contre, j'imaginais pas qu'on prononce le nom de Luc Longley dans cette rubrique.
L'Australien.
Fan de viande, on est là. Hein.
Ben exactement.
Ouais, qui aurait dû jouer à Charlotte, d'ailleurs. Je suis content qu'il l'ait parce que j'étais pas du tout sûr
et
de
Stephen
moi.
Laura,
Stephen
le
Laura, j'ai l'impression que Nico l'a pas et Fred, je suis pas sûr non plus, non. Longley, allez, Charlotte. Non, ça
oui, bien sûr. C'est bon. Très bon.
Oh mince.
Nico, quel est le meilleur Big Three de l'histoire de la NBA?
Ben, il n'y a pas photo sur mon Big Three, parce que toi, t'as bien dit 3 titres. Moi, j'ai un Big Three qu'on a gagné 4. Et voilà, ça compte un petit peu de gagner quand même.
Ouais, mais ils ont joué que 3 ans ensemble, en fait.
Ah, ben voilà, ben oui, mais moi, ils ont joué mon Big Three.
Ils ont perdu combien de finales, vous?
Alors, une seule.
Oui, alors que nous, 0.
Est-ce que je peux parler, Fred?
Mais évidemment.
Pour avancer mes arguments. Vous n'avez pas la parole, monsieur.
Vous avez toujours pas dit qui était
voilà,
Big Three.
Voilà, Big Three, vous l'avez reconnu, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, 14 ans ensemble. C'est la plus longue période avec un Big Three. Donc, hommage à eux parce que aujourd'hui, ça n'est plus possible. 575 matchs gagnés, 5 finales, 1 perdue, mais 4 titres quand même pour ces 3 garçons et bien
c'est,
entourés.
C'est un bon ratio, hein. 4 titres en 14 ans, 3 titres en 3 ans.
Et puis, trois joueurs aussi différents. Tim Duncan, le Follant à l'intérieur, qui était quand même monstrueux. Tony, la vitesse, la finition. Manu Ginobili avec ses moves et son côté spectaculaire. Ils nous ont régalé quand même. Et c'est pas que d'être Cocorico ou François le Français. Hein,
ça c'est bon, tu vois, ça voilà. C'est très bien.
Parce que quand tu regardes un petit peu, quand j'ai préparé tout ça, sur les sites US, pas mal de sites, ils sont dans le top 3, voire 2, voire 1 même, pour certains sites américains, le meilleur Big Three de l'histoire de l'NBA.
Et c'est qui sur
garçons.
Le site US en général, le meilleur Big Three? J'entends pas bien.
C'est Jordan pas bien. Souvent, mais il y a aussi Jabbar, Worthy, etc. Non, mais sur la longévité, il y a pas de débat parce que voilà, en plus c'est un Big Three où il y avait pas vraiment de gros stars, où on a fait des choses, voilà, on a composé des gros joueurs qui sont venus d'autres franchises. Là, ça s'est construit. Rappelez-vous de la draft de Tony Parker, Ginobili aussi. Les Américains ne connaissaient pas. La seule star, c'était Tim Duncan. Donc il y avait pas d'ego. C'est l'école de l'humilité.
C'est sûr qu'ils pâtissent un peu de ça, c'est-à-dire qu'on peut leur mettre un petit gris supplémentaire parce qu'ils ne sont pas ni sexy.
Voilà, ils sont pas flashy.
Ni flashy.
Ils ont fait de la magie.
Exactement. Et puis peut-être un peu trop humble parce que Duncan, bon, je veux dire, c'est pas Kobe Bryant quoi, mais ils ont eu l'intelligence pour durer 14 ans de pas revendiquer des salaires trop élevés, de se mettre au service du collectif et d'avoir du coup les seconds couteaux qui convenaient à merveille à cette équipe.
Et en plus leur amitié est pas fake comme dans certains trios.
Ah ça on s'en fout à la limite, sur le côté sportif l'amitié on s'en fout.
Bah quand même c'est des mecs qui se retrouvent dans les maillots retirés, on sent qu'il y a de l'émotion, ces mecs là ont eu du plaisir.
C'est un lover Nico, c'est ça le problème, c'est qu'on parle pas de basket, on parle de lover.
Bah romantique du jeu aussi, c'était quand même l'un des plus beaux jeux collectifs de l'histoire. l'histoire. Là,
les Bulls,
ça, c'est vrai.
Les Spurs et pour Alex, les Lakers.
Il a donné un indice, Nico, tout à l'heure, parce que oui, ça fait partie des plus grands Big Three de l'histoire de la NBA. C'est le plus grand Big Three de l'histoire des Lakers.
Alors,
il
lequel?
Faut le faire. Et lequel? Celui des années 80. Et j'ai une petite référence pour vous. C'est en ce moment, s'il y a une série à regarder sur le basket, ça s'appelle Winning Time, l'histoire de la dynastie des Lakers. On part du point Dr. Boss quand il rachète les Lakers pour une poignée. Voilà, quelques sommes à l'époque, on va dire, la NBA n'était pas dans une bonne gestion. Bref, il arrive et il va drafter. Enfin, il va pas drafter. Il va drafter deux numéro un de la draft, plus rajouter un petit peu avant lui l'arrivée de Kareem Abdul-Jabbar. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, c'est là où c'est beau parce que ça assume toute la pression qu'il y a autour des numéro un de la draft. Et seuls les Lakers ont réussi à faire ça, à gagner des titres avec trois numéro un de draft, c'est-à-dire Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson et l'oublié, peut-être un des garçons les plus sous-estimés de l'histoire de la NBA, James Worthy, le fameux Showtime.
On a les larmes aux yeux.
Eh ouais, parce que je crois que c'est sa fibre Lakers qui coule là. Il sait qu'il a trahi son équipe de cœur. C'est en train de dégouliner là du côté de Fred. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, Pierrot, c'est simple. Les Lakers vont remporter le titre en 80 et aussi en 82 avec juste le duo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, duo exceptionnel. Mais il faut rajouter un truc. Il faut s'adapter parce que les équipes en face s'adaptent aussi. Ils perdent les titres en 83 et 84, mais ils reviennent au plus fort quand ils arrivent à drafter Big Game James. Je parle de James Worthy qui n'est jamais aussi fort que lorsque les playoffs arrivent. Et ce garçon-là, meilleur contre-attaquant de toute la NBA, va être parfaitement introduit dans le jeu rapide des Lakers aux côtés de Magic Johnson. James Worthy, s'il n'est pas blessé lors des finales, lors des playoffs de 91, les Lakers peuvent remporter aussi un septième titre de leur histoire à l'époque en s'imposant. Mais il y a les Chicago Bulls. Et bref, c'est James Worthy, le blessé, qui va manquer à cette équipe-là. Mais imaginez, Pierrot, si aujourd'hui, je vous disais qu'on pouvait drafter LeBron James en amont et que derrière, quelques années plus tard, vous draftez Karl Anthony Towns et Kyrie Irving. Cleveland a presque eu ça en 2016.
Après, je suis ok, parfait ton récit, mais là où je suis pas d'accord, il y a un argument qui me chagrine un peu, c'est de me dire c'est les seuls à avoir été champions avec trois numéros 1 de la draft, merci de l'exploit quoi. C'est-à-dire que ok, c'est
quand
pas
tu vois
si
tous les ratés
ça,
qu'il y a eu avec des numéros 1,
ok, c'est pas oh si simple que ça. Mais c'est les quand Spurs, même plus facile avec des voilà numéros 1 qu'avec des numéros 15. Hein.
Spurs, Nico,
ça dépend,
Spurs sont là.
Ça dépend avec la pression. Ça dépend avec la pression.
Vrai,
t'as vu
non,
le nombre de
vrai
numéros 1 et essaye d'être champion avec
les Lakers en plus, il y a de la pression.
Essaye d'être champion avec Kwame Brown, s'il te plaît, Pierrot.
Exactement, c'est vrai. Mais bon, ça reste malgré tout.
C'est pas l'argument numéro 1.
Une franchise qui attire et c'est plus facile
non,
quand
c'est
même.
C'est une franchise qui a révolutionné le jeu. Et encore une fois, il faut regarder la série Winning Time parce que vous allez vraiment comprendre comme ça s'est façonné.
Très bien. Donc on aura les Lakers, les Bulls et les Spurs. À vous de vous faire
pour toi, Pierrot.
Alors là, moi je te dis, je suis pas capable de décider qui est le meilleur Big Three de l'histoire. Alors autant il y en a qui m'ont fait kiffer, bien sûr les Bulls.
Bien sûr, les Spurs. Miami. Hein.
Oui, mais alors ça, tu vois, moi ça m'a pas fait triper.
Non,
ça m'a
mais
pas fait triper.
Ça fait partie des Big Three.
Ça fait partie des Big Three, ouais, mais moi j'aimais beaucoup Ray Allen, Chris Bosh, aucun intérêt, et puis LeBron James. Moi je suis un peu comme. Je suis un peu de l'école Fred, tu vois. Moi j'aime bien l'idée que LeBron James soit champion avec Cleveland, tu vois, pas qu'il aille dans la facilité à Miami, tu vois.
Je comprends pas parce que lui il change de chemise quand même.
Non, je pense que ça te.
J'aime LeBron James, et voilà, c'est tout.
Non, mais j'ai pas une bêtise quand je dis ça, Fred.
Ça n'a pas été façonné.
Non, bah,
LeBron
sûr,
James qui
sûr
va à Miami, c'est pas le truc qui t'excite le plus.
Tu veux dire, ça t'exciterait pas d'avoir un club qui gagne le titre avec trois numéros 1 de la draft par exemple.
Si, ça
non,
peut
je comprends. Moi non plus,
voir,
mais c'est moins excitant
grand
que
exploit du monde.
Voilà.
Donc les Spurs.
Je trouve par exemple que les Spurs voilà, de ce point de vue-là,
ouais, t'es fan des Spurs à la base
de
Pierrot.
Non, pas du tout.
Oh là là.
Moi je suis pas fan des Spurs, mais par contre leur jeu, oui, excusez leur histoire, oui.
Alors, c'est un Basket Time spécial Celtics, nous allons donc parler des Celtics dans le quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pour Julien Lepers.
Ma main, Kyle Quinn
qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco Kukoc,
absolument. Alors, Andrew Gaze, donc...
Travaille à l'EDF, maintenant. T'as toujours été un mec des échanges.
Ça, c'est toute l'ambition de Fred Weiss. Mais si tu comprends pas les questions, mon grand, pose-toi des questions.
Mais non.
Je l'ai pas, attendez.
Putain, j'ai rien compris. Putain, allez loin, là, mon maître Capello, voilà, les chiffres et les lettres.
Oh, il est génial, tu vois.
Vous êtes parti en vrille, là, sur le jingle quiz.
de plus en plus.
C'est incroyable. Non, mais c'était rigolo, hein. C'était mais bien. On va le réduire quand même pour la prochaine fois, parce qu'on comprend plus rien, là. Donc, Nico, Alex, Fred, sans Stephen, là, c'est un peu. C'est,
chacun pour soi.
Mais non, non, c'est pas ça, c'est le titre de la première retraite de Jordan, quoi, en fait, qui se joue, c'est quoi, 94, c'est ça,
ça doit être un big man.
Non, qu'est-ce que je raconte?
Logiquement, ça doit être un big man qui gagne. Ce sera Houston.
Alors, en tout cas, on va parler des Celtics. Est-ce que vous êtes capable de me dire, là, comme ça, vite fait, la track, question de rapidité, qui est le dernier Celtic MVP de la saison régulière? Ah, est-ce que vous l'avez? Ils l'ont pas. Et ben voilà.
Isaiah Thomas?
Non, c'est pas Isaiah Thomas. Réfléchissez.
Paul Pierce,
est-ce que Paul Pierce l'a eu? Non, il l'a pas eu.
Donc, Garnett?
Non plus. Enfin, il l'a eu, mais pas avec les
Celtics. Larry Bird.
Ah oui.
En 1986, absolument. Ah ouais, voilà, premier point pour Alex Biggerstaff. Vous allez deviner un joueur désormais. Un joueur, alors un ancien joueur, hein, qui est retraité, qui est né à Portland en 1977.
Bill Russell?
C'est pas, non, 1977.
Ah, 77, j'ai pas entendu. J'ai répondu avant. C'était...
Et qui a débuté très tard en NBA, d'avoir joué dans une ligue mineure aux États-Unis, et donc est arrivé aux Lakers à 27 ans. Des performances qui n'ont pas permis d'être prolongées par les Lakers, donc qui l'ont renvoyé ailleurs, et qui a fait quelques saisons en Europe. Il a joué notamment à Grand Canaria, et également à Vichy.
Ime Udoka.
Oh, le coach des Celtics. Bravo.
Une saison à Vichy.
Bravo Nico.
Excellent joueur.
Excellent joueur, mais petite carrière de joueur.
Ouais.
Et ensuite,
je vais pour les Spurs.
École des Spurs.
Oui, ouais. Ensuite, mais après.
Assistant aux Spurs.
Il est revenu ensuite en NBA.
En quelle année, en Grand Canaria?
À Grand Canaria, l'année je ne l'ai pas noté, mais c'est au tournant des années 2010.
Il était en 2009 à Vichy, tu as dû jouer contre lui quand il était en Espagne.
Donc ça fait un point pour Nico. Un point pour. Bon coach, Ime Udoka.
Excellent. Oui. Et tout ce qu'il a changé au début de saison, sa première année à la tête des Celtics, il a transformé l'équipe au fur et à mesure. Il était très critiqué. Il a changé. On parlait des changements défensifs tout à l'heure. Il est candidat pour être le coach de l'année, en tout cas.
Adjoint de Popovic pendant 7 ans aux Spurs. On passe à une question peut-être qui va avantager Alex. On dit que le terme March Madness a été inventé en 1979 suite à une finale NCAA mythique.
Larry Bird Johnson.
Qui sont les deux stars des deux universités qui s'affrontent en 79, Larry Bird.
C'était facile.
Indiana State, Michigan State. Et Michigan State va gagner et Magic Johnson va éteindre Larry Bird sur cette finale mythique.
Voilà. Et donc c'est une des rares rivalités qui s'est poursuivie de l'université en NBA. Et ça fait donc deux points pour Alex. C'était trop facile, mais bon, je me suis dit, ils peuvent savoir. Le seul truc, c'est que tu as anticipé la fin de la question.
D'ailleurs, c'est comme ça que le surnom de Magic Johnson a été donné. Magic, on lui a dit, Irvin Johnson, ça pète pas assez dans les journaux quand tu vas faire des 40 points, 10 rebonds, 10 passes.
C'est pas faux.
Il faut trouver quelque chose.
Alors, une déclaration, vous trouvez l'auteur, et c'est la spécialité de Fred Weiss. Les 11 bagues, ça m'a toujours gêné parce que c'est un mensonge. Russell n'a pas gagné 11 titres. Il a joué dans des équipes qui ont gagné 11 titres. Il y a une différence. Il y avait tellement d'aide autour de lui, c'en était incroyable.
Walton? Bill Walton?
Quelqu'un qui rage.
Pas riche?
Que Bill Russell ait 11 bagues.
Will Chamberlain.
Alors que lui, il n'en a que 2.
Will Chamberlain,
absolument. Bravo, Alex. Ça fait 3 points pour Alex, 1 point pour Nico et pas de points pour Fred. C'est la grande rivalité.
Je préfère quand c'est toi qui poses des questions, Alex.
Bill Russell, Will Chamberlain, sachant que... Mais est-ce qu'il a raison, Will Chamberlain, quand il dit ça?
Il est un peu rageux. Bon, après, il a d'autres records. Il a d'autres records à son actif qu'il n'a pas eu Bill Russell.
Mais Bill Russell, c'était un joueur de complément ou un joueur majeur?
C'était un joueur majeur.
Ah, donc,
majeur,
donc, il est très rageux.
Meilleur défenseur, je pense, de la première grande ère de la NBA.
Ouais, premier grand joueur noir, en plus. Il y a tout un symbolique importante.
Vous avez révisé vos drafts.
Un pape du basket.
Ça arrive de temps en temps dans le quiz. Draft 98, Paul Pierce. 15 saisons aux Celtics, choisi en 10e position de la draft 98. Et alors là, on peut dire qu'il y a des franchises qui n'ont pas été inspirées. Hein. Olowokandi, choix numéro 1 aux Clippers.
On peut gagner des titres avec Olowokandi.
Mike Bibby, c'est correct Mike Bibby.
Pas mal, il a fait une belle carrière.
Choix numéro 2 par les Vancouver Grizzlies. Les Nuggets de Denver en choix numéro 3 ont pris Raf LaFrance. Il est mort de rire, Alex. C'était quoi ce joueur, Raph, la Fred?
Un grand pivot ailier fort, capable de shooter à 3 points, qui a eu ses petites belles heures lorsqu'il était à Dallas ou aux Nuggets, mais
c'est un peu haut. Pas marqué les esprits.
Ouais, c'est un peu haut.
Donc, on a Paul Pierce, 10e. Est-ce que vous vous souvenez qui est choisi juste avant Paul Pierce en 9e position de la draft 1998?
Antonio McDyess?
Non.
Un joueur des Celtics?
C'est pas du tout un joueur des Celtics, c'est juste pour souligner à quel point il y a eu des erreurs.
Ah, c'est un mauvais.
Cette année-là. Non, c'est un très bon.
Un très bon.
Nowitzki?
Dirk Nowitzki, excellent!
Oh,
Dendo.
Bravo!
Qu'est-ce que c'était? Putain, la lumière s'est allumée.
Mais là, ça quoi? T'as vu que c'est dingue, monté
doucement, ouais. Stephen, il l'a eu, là.
Stephen des Mavs aussi, faut pas l'oublier.
Là, bien sûr.
Là, vous savez que Stephen est en train d'écouter le podcast, et là, il est complètement fou. Il est complètement fou, là. Il est hurlé dans la salle d'attente de l'avion qu'il ramène de Los Angeles. Bon, bref, ça fait le premier point pour Fred. Ça fait 3 points pour Alex, 1 point pour Nico. Par qui a-t-il été drafté, Dirk Nowitzki, en 9e position?
Par Milwaukee.
Par Milwaukee, qui l'envoie directement à Dallas. Bravo, Alex, ça fait 4
avec points. Une coupe de cheveux, je pense que tu avais la même à 16 ans, Pierrot.
C'est vrai?
Ouais.
J'avais la même coupe
un
de cheveux.
Un peu blond
que
platiné.
Ouais, j'ai jamais été blond, moi. Hein. Alors, donc on a 4 points pour Alex, 1 point pour Nico, 1 point pour Fred. J'ai une dernière question, ce sont des enchères. Je compte, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs à trouver. Fred, Nico, Alex, combien de joueurs êtes-vous capable de me donner dans le roster de la dernière équipe championne avec Boston? Dernière équipe des Celtics championne 2008.
2008,
7
ouais.
joueurs.
Je crois qu'on l'a déjà fait, celui-là.
C'est possible. C'est possible.
Ouais, je me suis trompé.
7 joueurs, ouais, tu fais mieux, Fred?
Non, on avait fait 2000. On avait, ouais.
Non.
T'as 7 joueurs.
Lui, il a 7 joueurs. Bon, j'en ai 4.
Ouais, je tente le 8.
Hein. Combien de points ça donne, ça?
Moi, je voulais faire 1 point par tranche de 5. Donc là, t'es mal barré. Hein. Mais c'est dur après. Hein. Bah, j'avoue que c'est dur.
Tranche de 5, c'est...
Bon, allez, un point par tranche de 4, on va faire.
Tranche de 3, non? Bon, il y a le trio.
Allez, un point par tranche de 3, je te l'accorde. Est-ce que tu montes
à 8 non plus, ça marche pas, tu vois.
Est-ce que tu montes à 9?
Non.
Non. Donc c'est Alex. Bah, Alex, t'as gagné, hein. Bah, tente-le, 9, sinon tu
bah
t'as
oui,
perdu.
Bah oui, c'est pas drôle, sinon.
Tente-le, allez, 9. Allez, vas-y. Je t'écoute.
Donc les 3.
Donnez-moi les noms, quand même, hein.
Paul Pierce. Le mec, il dit les 3 comme ça.
Ray Allen.
Et après, Garnett. Le numéro 22, le numéro 14.
Il y en a pas mal des connus, hein. Franchement, il y en a pas mal.
Kendrick Perkins.
C'est bon.
Glenn Baby Davis.
Glenn Davis, bien sûr. C'est bon. Ouais, 22 ans. Il y en a d'autres que tu peux trouver, hein, sans problème.
Tony Allen.
Excellent. T'es déjà à 6. Allez, je vais t'aider un peu. Il y a un meneur ultra connu qui était jeune.
Rajon Rondo.
Exactement. Et donc, t'es à 7. Alors après,
en enchère initiale.
On commence à tomber dans le plus obscur. Hein. Donc, tu vas tenter des coups.
Scalabrine.
Excellent.
Ah ouais.
Brian Scalabrine.
Le White Mamba.
On est à 8. Encore un. Ah, et t'égalises. Et encore 2 et tu gagnes. Voilà. Mais ça devient plus dur. Hein. Ça devient plus dur. Comment je pourrais t'aider? Parce
Kendrick Perkins l'a dit.
Le problème, c'est que ces mecs-là, moi, pour te donner des indices, je vais avoir du mal.
Je crois que j'en ai 2.
Tu crois que t'en as 2? Bah, tu pourras les donner. Ah, si, il y en a peut-être un que tu peux trouver. Attends, je vais t'aider.
Il n'y a pas de Français à l'époque?
Non, il n'y a pas de Français. Il n'y a que des Américains.
Sam Cassell
is a very
Bravo.
Good answer. Bravo à toi.
Ah, le Chinois. Merci, le Chinois.
Voilà, il y a peut-être encore un que tu peux trouver.
Bah, j'en suis à 9 là, non?
Ouais, t'en es à 9. Donc t'égalises, encore un pour gagner. Hein. Un de plus et tu gagnes le quiz. Sinon, je donne la possibilité à Alex de donner un nom de plus et c'est lui qui gagne.
Voilà, je sèche là-dedans.
Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Tu veux tenter, Alex?
Il y en a 2. Je dirais Leon Poe. Et peut-être James Posey.
Excellent. Les deux y sont. Là, je donne la victoire parce que là, c'est solide quand même.
Ça marche.
Nico, t'es déçu. Mais
c'était pas mal. C'est une belle performance.
Ouais,
c'est solide. Leon Poe et James Posey.
Leon Poe, tu me l'avais refusé parce qu'on avait fait en fait les Celtics en finale contre les Lakers perdus. Et j'avais dit Leon Poe et
il n'avait pas joué.
Ouais.
Après, on avait Gabe Pruitt. On avait Eddie House et PJ Brown.
Eh oui.
Bravo, Alex. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.